Conversations urbaines et architecturales, une émission présentée par Myriam Schwartz, architecte et urbaniste sur Radio Immo.
Bonjour chers auditeurs, voilà en plein mi-pim, je suis ravie de recevoir aujourd'hui Maud Cobé. Bonjour Maud.
Bonjour Myriam.
Alors, c'est une agence, on va dire... Très en vogue et très connue dans notre univers professionnel. Il y a peu de femmes qui ont une agence avec vraiment un rayonnement. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que l'ADN de l'agence est particulière? Est-ce que c'est incarné? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette agence, derrière Maud Cobé, aux côtés de...
Très fière effectivement d'avoir cette agence que je porte depuis maintenant presque 20 ans. Très fière de mes équipes, des collaborateurs architectes qui travaillent avec passion et fidélité depuis des années. Effectivement très fière d'appartenir à ces femmes architectes qui ont un bon nombre de collaborateurs pour pouvoir au quotidien essayer de fabriquer la ville au mieux.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'ADN, justement, ce que j'aime bien demander aux architectes, l'ADN de l'agent, qu'est-ce qu'il y a de précis? Qu'est-ce qui, à un moment donné, te fait dire que, voilà, l'ADN de l'agence Maud Cobé, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécifique. Hein.
Alors, le point de départ de l'agence est de travailler sur des projets... de restructuration lourde. J'ai commencé par la petite porte. À l'époque, on pensait que j'étais designer d'intérieur, ce qui m'allait très bien. Ouais. Je suis architecte de formation. Et il y avait toujours ce petit clin d'œil de quand vous êtes une femme, vous êtes forcément architecte d'intérieur.
Évidemment.
Fière d'avoir été formée par une grande architecte designer de renom, André Putman, qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai travaillé chez un autre designer parisien, Jean-Marie Massot, à qui je rends hommage aujourd'hui. Et ces deux personnes-là m'ont appris beaucoup de choses sur la petite échelle, sur le design d'intérieur, sur les aménagements, sur le rapport à l'espace. Et je dirais que, pour résumer, l'ADN de l'agence, c'est peut-être de partir d'un projet de la petite échelle pour pouvoir ensuite construire au plus grand, au plus large.
Alors c'est rare, hein, parce qu'à l'époque où tu as commencé la restructuration lourde, il y avait très très peu d'agences qui, il y avait un côté un peu, c'est compliqué à publier, c'est compliqué à mettre en avant, je trouve assez intéressant cette idée de partir de la petite échelle pour aller vers la plus grande. Aujourd'hui, on a pas mal de projets de restructuration, donc du coup, tu te sens à l'aise.
Oui, à l'aise. Je raconte souvent cette petite histoire quand j'ai commencé. J'ai eu la chance de tomber sur des programmes de rénovation très rapidement où on me demandait de réparer, de rénover, d'embellir des bâtiments des années 80, des années 90, des années 2000 qui avaient été construits par mes propres professeurs. Et assez rapidement, on a réussi à convaincre les donneurs d'ordre, nos maîtres d'ouvrage, qu'il y avait nécessité de travailler plutôt ces échelles de l'entre-deux, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, et d'éviter d'avoir cette fameuse cloison, ce fameux silo entre ces disciplines, et de concevoir un projet au global. Donc on a.
Mais c'était des projets où les utilisateurs finaux étaient évidemment connus. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours une évidence de connaître l'utilisateur final. Hein.
Cela dépendait des projets où on avait effectivement une histoire à raconter auprès d'un utilisateur, et puis parfois, effectivement, il fallait simplement essayer de retrouver une écriture pour redonner envie aux gens de réintroduire et de réhabiter des bâtiments.
Alors, tu parles d'équipement, de bureaux aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, la commande principale, elle tourne autour de la réhabilitation, mais aussi de la réhabilitation d'équipements publics? Tu as enfin réussi à accéder à cette commande-là?
Alors, après une bonne quinzaine d'années de pratique, effectivement, et à force d'essayer d'ouvrir des portes, très dense, je dirais, dans l'approche, puisqu'encore une fois, quand vous n'avez pas les références, quand vous n'avez pas malheureusement je dirais, le bon projet à présenter pour convaincre, alors même que je considère qu'un architecte est un bon généraliste qui doit justement ne pas se spécialiser, mais doit être capable de, je veux dire, de proposer des projets différents en fonction de du contexte architectural, en fonction de du récit, en fonction des usages. Eh bien, j'ai le bonheur maintenant de pouvoir répondre à des appels d'offres publics, effectivement, parfois associés à d'autres confrères, parfois seuls, pour concevoir des projets d'intérêt général.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies et puis la manière de travailler, qui n'est plus la manière atelier, entre guillemets, comme on pouvait travailler il y a une vingtaine d'années, justement, tu parles de Putman, moi j'ai travaillé aussi il y a quelques années avant. chez Putman,
ah, génial.
Avec Baudin, avec enfin bon voilà, on en reparlera une autre fois. Je suis pas sûre que ça intéresse les auditeurs, mais il y avait cette idée du dessin, de la matière, de ce retour entre l'idée, le cerveau, la main. Aujourd'hui, on est un peu déconnecté de cela. Est-ce qu'on revient quelque part à l'essentiel, qui est le fait de réfléchir avec sa main et non pas avec son ordinateur,
hein. Oui. Alors, ça pose la question, effectivement, des nouvelles technologies. On est à une époque où je pense qu'il ne faut pas être dogmatique et lutter contre le progrès. Il y a eu, effectivement, le passage du 2D au 3D, le BIM, récemment, même si pour la plupart des gens, les gens ne savent pas pourquoi et à quoi sert le BIM. Et puis maintenant, l'intelligence artificielle, je pense qu'il faut l'utiliser comme un outil, comme un nouveau crayon, mais la main, c'est nous qui la gardons, évidemment.
D'accord. La créativité, elle ne vient pas de l'ordinateur ou de l'IA.
Non, absolument. On revient à des essentiels, ce fameux principe de l'architecture vernaculaire, où finalement, on va revisiter des fondamentaux très simples de réversibilité, de bâtiments évolutifs, de reconquête de l'artisanat avec la matière, le biosourcé, le géosourcé, les matériaux qui sont déjà là, qui sont présents autour de nous, et de retrouver également cette façon dont on va pouvoir fabriquer ces bâtiments dans la durée. Et ce que j'apprécie énormément dans l'architecture vernaculaire, c'est que finalement, elle repropose un nouvel esthétisme, une nouvelle poésie. Et je pense que dans cette période de crise dans laquelle nous vivons, que ce soit une crise sociale, politique ou écologique, le retour au bon sens, à l'essentiel et à la beauté me paraît fondamental.
Et alors, est-ce que tu as vraiment l'impression que tout le monde est dans cet état d'esprit ? Parce que on a quand même ce ressenti qu'il y a un décalage entre le bon sens, justement, le vernaculaire, le bon sens, et puis cette espèce de course en avant sur, ben, on va dire, une économie toujours, je veux dire, de plus en plus liée quand même au marché financier, de plus en plus liée à une certaine, on va dire, envie d'en découdre avec du plus. Et puis, de l'autre côté, il y a l'esprit du moins. Donc, où est ce juste équilibre ? On a quand même le sentiment dans le bâtiment, en tout cas d'une manière assez prégnante, qu'il y a vraiment ces deux écoles.
Hein. Alors, il y a l'idée de faire cette fameuse... Je pense que c'est une philosophie qui peut tous nous guider. On a connu une époque, quelques époques, quelques décennies assez extraordinaires dans le sens peut-être parfois aussi négatif, où la promotion immobilière, on peut le dire, hein, la façon dont on pouvait fabriquer la ville était pensée de manière trop centrée sur le résultat, la colonne Excel, la rentabilité, l'efficacité. Et puis, effectivement, avec cette situation actuelle, on change de paradigme, et je pense que c'est très intéressant, effectivement, que chacun revienne à un niveau beaucoup plus équilibré. On pourra peut-être parler après de la d'unisson vers une architecture bas carbone et autour du vivant. L'idée de dire qu'on va travailler ensemble, les maîtres d'ouvrage et les élus et les constructeurs et les fabricants et les architectes, les paysagistes, tous ensemble, avec beaucoup plus d'humilité pour pouvoir construire mieux avec moins et réintroduire la notion de vivant dans le projet.
On est quand même dans un état d'urgence assez implacable sur ces problèmes, et pourtant on hésite entre la sidération et le faire lentement.
Oui, effectivement, le sujet qui nous sépare souvent les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre, c'est le temps. les architectes, les paysagistes, nous avons cette nécessité de concevoir dans le long, long terme, alors même qu'il y a une obligation d'aller vite, et je peux le comprendre, il faut construire plus de logements. Comment arriver à réconcilier ce temps long et ce temps court? C'est la vraie question.
Alors, je pense que c'est une question qu'on va aborder lors d'un deuxième interview. Qu'en penses-tu, Maude?
Avec grand plaisir.
À bientôt, chers auditeurs. À bientôt sur nos antennes.
Conversations urbaines et architecturales. Une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.